trimestre et puis repartir davantage parce que l'œuvre de Dieu n'attend pas. Et je crois que c'est tellement important d'apporter quelque chose. On était avec Timothée, avec Stephen. Stephen n'est pas là aujourd'hui. Comment ? Il se repose, il va bientôt peut-être arriver, je n'en sais rien. Stephen de Finlande, qu'on a reçu, un ami, fils du pasteur, qui a été maître de stage pour nous, à Dinan. Et Stephen a vécu en Finlande 17 ans, 18 ans. Et alors nous étions hier dans un home de personnes âgées avec des familles roumaines là, qui nous avaient invités pour apporter la parole. Et donc on a chanté avec eux et devant des personnes âgées. Et on a apporté la parole. Je me dis, c'est vrai, c'est Noël, on devrait faire ça chaque année. On devrait apporter dans les prisons, dans les homes, partout. C'est une occasion extraordinaire de témoigner l'amour de Jésus. Qu'à d'autres moments, peut-être on a moins d'ouverture, moins de portes ouvertes. Alors que là, c'est une occasion tellement simple et facile. Et facile d'entrer. Il y a des portes qui s'ouvrent pour aller chanter à gauche et à droite. Et c'est une chose à laquelle nous devons penser. Là, j'ai vu, j'étais béni, on était dedans et on n'a rien organisé. Enfin, moi, j'ai pas organisé, eux qui ont organisé. Et je me dis, mais c'est bien ça, c'est formidable, on devrait être là. Et je me dis, tiens, pour les années prochaines, futures, si on peut faire quelque chose. Voilà, alors ce matin, merci pour la prière aussi, Clémentine. Voilà, alors ce matin... Nous allons effectivement parler du cadeau. Le cadeau, c'est extraordinaire, évidemment. Nous avons des cadeaux. Nous nous faisons des cadeaux les uns aux autres. Et vous savez qu'il y a des sites sur Internet pour revendre le lendemain tous les cadeaux dont on veut se débarrasser, parce que c'est pas vraiment ça qu'on aurait envie d'avoir. Et il y a plein de gens insatisfaits de leurs cadeaux. À peu près 20% des gens revendent, si vous avez regardé les actualités, à peu près 20% des gens revendent leurs cadeaux sur Internet ou sur d'autres par d'autres moyens. Et donc, voilà. Et bien souvent, les cadeaux, bah, ça fait plaisir pour un temps. Et puis voilà, et puis heureusement tous les ans on a d'autres possibilités, mais il y a un cadeau qui nous est donné par Dieu qui lui ne déçoit pas. On ne va pas avoir l'intention de le revendre le lendemain, non, c'est un cadeau extraordinaire, intemporel, c'est une personne, la personne la plus merveilleuse qui puisse exister. Alors c'est fantastique, recevoir ce cadeau c'est merveilleux. C'est un cadeau qui a reçu des cadeaux, hein, vous le savez, avec les mages. Il a reçu lui-même des cadeaux, mais il a été surtout et avant tout un cadeau pour le monde, un cadeau extraordinaire. Alors, comment ça sera cette histoire-là du cadeau, le cadeau mal reçu? Il y a des cadeaux qui sont bien reçus, hein. Lui, il est venu sur la terre, hein, il n'a pas forcément été bien reçu par tout le monde. On se méfie des fois des cadeaux, hein. Des fois, derrière le cadeau, qu'est-ce qu'on cherche? Hein, les gens sont des fois suspicieux et ils ne pensent pas que c'est possible. Et, voyons un petit peu dans les cadeaux, on peut en faire de toutes les sortes, bien entendu. Tu peux mettre voilà, l'histoire d'un cadeau, mais tu peux, je pense qu'il est dessus si tu veux. On en a pour 2 minutes. Si ça fonctionne, il y est ou il n'y est pas? Il n'y est pas. Il faut peut-être mettre le son. Des fois dans le journal des télévisés, il n'y a pas de son et on voit. Bon, d'aucun problème. Non, c'est pas ça. L'histoire d'un cadeau. Alors, le cadeau, c'est vrai que ça met du temps, hein, pour arriver des fois par la poste. Hein, donc, il y a des fois des problèmes sur la route du cadeau. Hein. Alors, ce Ribot nous présente un cadeau en tout cas. Hein. On n'a pas le son, mais on a l'image. Il n'y a pas de son. Pas moyen d'avoir du son. Comment ? Ah, c'est dans la diapositive qu'il y a un problème. Donc l'autre aussi. Alors je présume qu'il y aura un problème dans toutes les vidéos. Hein. Ok, d'accord. Bon, passons à la suivante, hein, c'est pas un problème. Voilà. Donc, depuis le début de l'humanité, eh bien, Dieu a créé l'homme et la femme. Nous allons reprendre à partir du début, parce que bon, hein, un cadeau à Noël. Dieu envoie un cadeau, pourquoi faire? Parce qu'au départ, Dieu a donné un cadeau extraordinaire à l'homme, c'est la vie éternelle. Dieu a placé Adam. C'est vrai qu'il lui a donné un cadeau, c'est une femme, hein. C'est pas vraiment un cadeau, c'est son vis-à-vis, hein. C'est son vis-à-vis. Tout à fait égal à lui, d'accord, hein. Et pour qu'il ne soit pas seul, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alors, voilà, Dieu crée le mariage. Et ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et dans le jardin d'Éden, vous savez, il y avait surtout une relation avec Dieu. Les deux mains, là, ça représente quelqu'un d'autre. Il y a trois personnes, en fait, dans cette image. Hein. Il y a les mains de Dieu, hein, qui a créé Adam, qui a créé avec une côte d'Adam Ève, afin qu'ils vivent en harmonie avec Dieu, dans une relation verticale et dans la relation horizontale. Et voilà, c'est un beau triangle magnifique de relationnel. Et, voilà, mais il y avait une chose que Dieu avait faite extraordinaire au départ. Au départ, Dieu voulait que l'homme vive éternellement. L'homme et la femme, bien entendu. Donc, ils étaient créés pour vivre éternellement. C'est extraordinaire. Dans une relation, dans une intimité avec leur Créateur. Ça, c'est fantastique. Parce qu'il va devoir s'occuper de son jardin, là, du jardin. Il va devoir vraiment s'en occuper, hein, s'occuper de la terre, s'occuper de sa relation avec son conjoint, et d'abord s'occuper de la relation verticale avec Dieu. Voilà, c'est ça qu'il devait faire, entretenir cette relation. C'est tout ce que Dieu demandait à Adam. Bien sûr, il allait leur donner des enfants, ils allaient être nombreux, etc. Mais le principal, c'est faire attention à la relation verticale et la relation horizontale. Tout va ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y avait deux arbres dans ce jardin. Quelquefois, on oublie d'en mentionner le deuxième. Donc, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie, l'arbre de vie. Et donc, Adam pouvait manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin, sauf un seul. Il n'y avait qu'une interdiction. Plein d'autorisations, des milliers d'autorisations, mais malheureusement, une interdiction, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne prendras pas pour goûter, pour consommer le fruit de cet arbre. Et alors, à partir de ce moment-là, ils pouvaient aussi cueillir des fruits de l'arbre de la vie. L'arbre de vie représente la vie éternelle. Il vivait éternellement grâce aux fruits de l'arbre de vie. Et c'est ça le but là, du jardin, là, où Dieu le place sur la terre. C'est pour qu'il vive en harmonie avec Dieu, dans l'intimité de son amour. Voilà, c'était quelque chose de magnifique, de beau. Et déjà, Adam vivait éternellement. Il avait reçu cette vie éternelle extraordinaire. C'est pas beau, ça? Et vivre éternellement dans l'amour, c'est pas beau, ça? Qu'est-ce qu'on demanderait de plus? De mieux. Malheureusement, hein, vous savez ce qui va se passer. Hein. Ce qui va se passer, c'est que, il y avait un serpent là, hein, et un serpent qui va séduire Ève. Hein. Dieu avait parlé à Adam, et Adam lui avait dit, attention, on ne peut pas, hein, on ne peut pas prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où ça se produit, on va mourir, on va souffrir. Et finalement, ça va être la mort. La mort spirituelle d'abord. La mort par rapport à notre relation avec Dieu. Et puis la mort physique au final. Parce que même Adam a vécu très longtemps sur la terre, mais au final. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être chassés du jardin d'Éden. Pourquoi est-ce qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden? à votre avis? Parce que en restant dans le jardin, ils pouvaient encore avoir accès à l'arbre de vie, mais ça va pas, ça. Donc j'ai fauté, mais c'est pas grave, je vais encore utiliser les fruits de l'arbre de vie. Non, ça c'est pas possible. On peut pas faire les deux. Donc ils sont mis dehors, ils peuvent plus avoir accès à l'arbre de vie, et donc la vie éternelle, eh bien il y a un gros problème. Il y a un gros problème avec ça. Et ils se retrouvent avec des conséquences. Hein. Le premier, c'est le serpent qu'on voit par terre. Là. Il va ramper dans la poussière tous les jours de sa vie. C'est vrai qu'il y a une promesse en Genèse 3:15 que l'enfant de la femme, Ève, bien sûr, toute l'humanité va venir au travers de Ève. Hein, et le fils de la femme, c'est Marie aussi. Hein, si on passe jusque là-bas, dans toutes les générations, le fils de la femme, bien sûr, c'est Jésus, sera mordu au talon. Ce sera mordu, le fils de la femme lui écrasera la tête. Et donc, ça va se produire à la croix. Quand Jésus va mourir à la croix, eh bien, c'est là où il sera mordu. Jésus sera mordu au talon. Hein. Mais son pied écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire que 3 jours plus tard, Jésus va revenir à la vie et il a la puissance pour vaincre la mort, vaincre le péché, vaincre le mal, vaincre toutes choses. En lui, nous avons vraiment la victoire. Et il y a déjà cet aspect prophétique d'une victoire totale sur le serpent. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, il y a des conséquences pour la femme. Elle aura des grossesses pénibles. Et ses désirs se porteront vers son homme, vers son mari, mais lui dominera. Et parce que l'amour ne devrait pas dominer, mais voilà, l'aspect humain dans le péché crée des dominants. Et le fait de dominer sur les autres, de tyranniser les autres, ben ça c'est vraiment le fruit du péché, d'accord. Et d'un autre côté, Adam, il va devoir travailler la terre. C'est à la sueur de son front qu'il va gagner sa vie, et il va beaucoup souffrir. Ils vont souffrir, et finalement ils mourront. Et ça, c'est la conséquence du péché originel. Alors, le péché, bien sûr, ça va vraiment devenir de plus en plus intense. Ouais, il y a la honte, oui, il y a aussi le report, hein, l'accusation. Adam dit, ouais, c'est à cause de ma femme. Ève dit, non, c'est à cause du serpent. C'est toujours à cause de quelqu'un d'autre, évidemment. Hein. C'est jamais vraiment moi. Hein. Et puis, on voit ici avec leur fils, leurs deux premiers, c'était Abel, Caïn et Abel. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Caïn et Abel? Caïn était un cultivateur et Abel était éleveur. Et ils vont offrir des sacrifices. Caïn va offrir un sacrifice à Dieu d'une manière religieuse, parce que bon, il veut obéir à ce que ses parents lui disent. Il a une éducation religieuse par ses parents, vraiment, qui connaissent le Seigneur. Il veut offrir quelque chose à Dieu, par religion, par tradition, par voilà. Et Abel, lui, c'est par foi. C'est vraiment avec le cœur. C'est avec vraiment toute sa foi, toute sa confiance. Il offre à Dieu un sacrifice. Et il se fait que le sacrifice de Caïn déplaît à Dieu. Et le sacrifice d'Abel plaît à Dieu. Et Caïn, il trouve ça injuste. Vraiment, c'est pas juste, cette histoire. Et il décide de tuer son frère. Par jalousie. Et c'est le premier meurtre de l'histoire. Mais ça va en amener des autres, malheureusement. Hein. Tous les films relatent finalement cette chose qui se produit dans le monde. Hein. Et alors, nous avons les mecs après, parce que le mal grandit sur la terre. De plus en plus, avec les mecs. Et bien, si on y fait une meurtrissure, lui, il va tuer 7 personnes. Faites gaffe, les gars, parce que faites une petite balade. Moi, j'en tue 7. Donc le mal s'amplifie sur la terre de plus en plus, au point où, au jour de Noé, Dieu voit que les gens n'ont aucune pensée pour Dieu. Ils marient leurs enfants, ils rigolent, ils sont dans la joie, mais Dieu, on l'a éjecté de ses pensées, de sa vie, de son cœur. Et voilà que les hommes sont devenus tellement méchants. La méchanceté, c'est-à-dire tourner contre Dieu. Le poing contre Dieu, et on n'a rien à voir avec Dieu, on veut rien avoir avec lui, c'est le Créateur pourtant, c'est celui à qui on devra rendre compte. Mais les hommes se sont détournés. Et une belle image, c'est une image de la Deuxième Guerre mondiale en Normandie, voilà, comment je vais dire, un cimetière village, on va dire comme ça, où des Américains, des Anglais, des Australiens, des Canadiens, etc., etc. Les Français, on pense aux Français, on pense aux Belges, on peut penser à tous ceux qui sont morts à cause de la stupidité, de la guerre, du mal, du déclenchement de tant de maux sur la terre, hein, vous savez, hein, ces choses-là. Et voilà, la mort a régné, hein, et le péché a fait régner la mort. Voilà, c'est la mort. Alors, Dieu, depuis le début, il veut restaurer. Comment restaurer cette histoire? C'est parti dans un mauvais sens. Et voilà, le but de Dieu, voilà, c'est le problème de l'humanité, c'est le péché. Il y a un gouffre entre Dieu et l'homme. Il y a un gouffre énorme. Comment réunir l'humanité pécheresse, l'humanité qui est vraiment dans la catastrophe. Et Dieu, lui, il voit l'homme, il nous regarde pour l'instant, hein, il nous aime, et il veut vraiment faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous feriez de plus extraordinaire entre les deux, là? Qu'est-ce qu'il y aura moyen de faire? Laisser tomber les gens dedans ou faire quelque chose? Bon, on imagine tout de suite, hein. Si vous êtes un peu ingénieur ou architecte ou un dessinateur, ben vous allez faire un pont, non, hein? On va essayer d'enjamber les deux. Tu peux mettre le dire suivant. Et déjà, la première façon de voir les choses avec Adam, hein, pour revenir à Adam, hein, le fruit défendu, qu'est-ce que Dieu avait fait? Mais il les avait vêtus de peau d'animaux. Et ça nous parle du sacrifice sanglant. Il y a donc déjà en Adam et Ève, avec eux, il y avait déjà un sacrifice sanglant. Quelqu'un doit mourir pour les fautes commises. Ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. C'est dommage, hein. Il y en a qui n'aiment pas de voir le sang. Hein, j'en connais. Donc, c'est pas facile. Mais il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Et donc, un agneau, hein, a dû mourir pour nous. Et Jésus, c'est le type de l'agneau parfait, hein, voilà, qui ôte le péché du monde, comme dit Jean-Baptiste. Tu peux mettre la pièce suivante. Et donc, avec nous avons parlé de Noé, et Noé, Dieu ne voulait pas détruire l'humanité. C'est vrai que l'humanité a été détruite en dehors de sa famille, hein. C'est lui, sa femme, ses trois fils et les trois belles filles sont restés en vie parce qu'ils sont montés dans l'arche, hein. Dieu a permis qu'il y ait une arche. Il y a toujours une arche dans l'histoire des hommes. Il y a toujours une arche, hein, chapitre 6 de Genèse. Toujours un moyen de salut. Mais les autres n'y sont pas entrés, malheureusement. Ils sont restés en dehors. Ils ont rigolé de Noé. Noé, il a prêché pendant 120 ans le jugement qui allait venir. Et les autres, pendant 120 ans, ils se sont moqués de Noé. C'est un choix. Mais voilà, ils ont connu la perdition. Et c'est dommage, quoi. Et voilà, ce que je voulais revenir à la diapositive précédente, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui est récupéré pour l'instant, vous savez, pour des choses qui ne nous intéressent pas. Mais l'arc-en-ciel veut dire que Dieu plus jamais va se souvenir, plus jamais ne détruira l'homme par un déluge. Parce qu'il se souvient, il aime, il fait une alliance avec Noé. La diapositive suivante. Et il va choisir un homme, Abraham, et va dire au travers de ta descendance, voilà, il y a un plan qui commence à s'exécuter dans l'histoire des hommes. Dieu choisit un homme et lui dit, regarde les étoiles qui sont dans le ciel. Il va y avoir quelqu'un. Quelqu'un dans ta descendance qui bénira toutes les familles de la terre. La mienne, la vôtre, nos familles. Dieu nous aime tellement. Et c'est au travers de sa descendance que nous pouvons que nous allons être sauvés, que les nations, Israël bien sûr, puisque c'est la nation que Dieu va donner à Abraham, hein, Abraham l'hébreu, il va recevoir un peuple, et ce peuple, au travers de ce peuple, le salut vient des Juifs, au travers de ce peuple naîtra le Messie, celui qui viendra sauver son peuple de ses péchés et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, tu peux... voilà une belle peinture. Voilà, Moïse. Moïse, alors, c'est encore un autre homme avec qui Dieu a fait alliance et Dieu a donné la loi à Moïse. Et Dieu voulait être le Dieu d'Israël. Et Israël devait être le peuple qui sert Dieu. Et comment le servir? Eh bien, Dieu va donner un code, des lois de vie. Si on les applique, ça va être des lois de vie. Mais si on ne les applique pas, ça peut devenir des lois de mort qui produisent la mort. Et il est impossible de respecter parfaitement les lois. Mais Dieu le savait, hein. Dieu savait que ce serait vraiment très difficile et impossible même. Enfin, impossible, pas vraiment, on comprendra après. Mais vraiment, c'est vraiment un enseignement. La loi est un enseignement. Un enseignement pour nous conduire à découvrir que nous sommes pécheurs. Parce que s'il n'y avait pas de loi qui nous dise « tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ça », si je le pratique, quel est le problème? Si je vole et que personne ne m'a jamais dit que c'était mal de voler, il y a quelque chose qui ne m'appartient pas, je le prends, c'est ma possession maintenant. Voilà, voilà, changement de propriétaire. Mais s'il y a une loi qui dit que je ne peux pas, ça c'est un problème. Parce que là, j'ai une mauvaise conscience là-dessus. J'espère que la conscience devient agie. Hein? Et si je suis pertinemment bien que c'est mal de voler, ben voilà, si je le fais, ma conscience m'accuse. En tout cas, la loi m'accuse et les autres pourront m'accuser. Et Dieu pourra aussi me rendre coupable de la loi que je n'ai pas respectée. Voilà, c'est tout. Il y a des lois, il faut les respecter. Mais la loi, finalement, on ne parviendra pas à la respecter. Parce que la loi, elle dit en gros ceci. C'est deux lois d'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Est-ce que j'aime Dieu à tout moment, à tout instant, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée? Est-ce que je ne pense pas à moi-même à certains moments? Je pense qu'on est dedans. Hein. Ah oui, j'ai pas volé, j'ai pas tué. Connais tout ce refrain là. Hein. Je suis pas si méchant que ça. Hein. J'ai rien fait de mal moi. Hein. Zut, chez moi la paix quoi. Qu'est-ce que j'ai fait hein? Mais je suis coupable de toute manière parce que je n'ai pas aimé Dieu à 100% à tous les instants. C'est impossible. Mais Dieu le savait que c'était impossible. C'était simplement pour nous enseigner, pour nous faire comprendre que nous avons besoin d'un sauveur, d'un libérateur, celui qui viendra accomplir la loi que moi je ne sais pas accomplir, et il accomplira la perfection afin qu'en croyant en lui, je sois délivré de la loi. Et donc, c'est une loi de grâce. C'est la grâce, c'est un cadeau. Ça devient un cadeau. Dieu nous fait cadeau. Dieu veut vraiment... Alors, Dieu va faire alliance avec David, parce que dans l'histoire continue, et Dieu veut faire passer dans la lignée de David son Messie, le roi, celui qui va venir. Celui qui va venir au travers du roi David. David était un homme selon le cœur de Dieu. Je ne dis pas qu'il était absent de péché, parce qu'on peut retrouver des péchés caractéristiques, enfin, au moins deux grandes fautes dans la vie de David. Mais c'était un homme qui savait se repentir, un homme qui savait vraiment, qui mettait sa confiance totale en Dieu, qui recherchait le Seigneur. Et vraiment, et au travers de cette lignée-là, le Messie doit venir. Donc, les prophètes, qu'est-ce qu'ils vont dire après? Mais ils vont dire, il va venir, attendez-vous, il va venir. Les prophètes vont donner des pistes. Hein. Il viendra, vous savez, il viendra à Bethléem. Il viendra au travers d'une jeune fille, Ésaïe 7, 14, au travers d'une jeune fille, d'une vierge. Et des choses comme ça vont être données, toutes sortes de prophéties concernant celui qui va venir. Et l'ange Gabriel un jour arrive là à Nazareth et il vient rendre visite à Marie. Et c'est une femme qui a été choisie par Dieu. Ça aurait pu être une autre, hein. C'était elle. Et Dieu a voulu que ce soit elle, la mère de Jésus, celui qui allait venir. Alors, voilà. Donc, c'est vrai que la mort existait. Nous, on tombait dans cette mort. Il n'y avait pas de moyen. Et donc, nous avons vu qu'il y a eu cette possibilité. Ce que Dieu voulait depuis le début, c'est qu'il y ait ce pont, hein, cette possibilité de permettre à la relation entre nous et Dieu de se rétablir. Il voulait un rétablissement de la relation. L'homme pécheur, c'est la mort, le péché, c'est le salaire du péché, Romains 6, 23. Le péché sépare de Dieu, et c'est Dieu parce que Dieu est saint. Et donc on est séparé de cette vie éternelle. Et donc c'est en Jésus-Christ maintenant qu'il va y avoir cette possibilité. Notre pardon, c'est se tourner vers Dieu et croire. C'est le but de Dieu, c'est que nous puissions, l'humanité puisse être réunie avec Dieu. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. La promesse de Dieu à celui qui croit, il reçoit la vie éternelle, il n'entre pas en jugement et il passe de la mort à la vie. Et ça, nous le voyons dans Jean chapitre 5, verset 24, si vous voulez regarder avec moi. C'est extraordinaire ce que Dieu va faire concernant le salut. Nous le voyons dans Jean, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Vous vous rendez compte, ça ? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Extraordinaire. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc il y a un rétablissement, parce que Jésus a payé. Il a payé nos dettes. Il a payé notre écart, notre séparation. Il a payé pour que notre condamnation soit ôtée, notre jugement soit ôté. Il a payé pour régler le problème de l'humanité qui est le péché. Le salaire du péché, il a porté sur la croix. Il a pris toutes nos fautes sur lui, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, que nous n'entrons pas en jugement et que nous passions de la mort à la vie. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui croit en Jésus-Christ. Plus aucune condamnation. Extraordinaire. Alors,
Jésus-Christ, le seul chemin pour franchir cet abîme, tu peux aller plus loin. Donc, à la croix, Jésus a pris notre égoïsme, nos mensonges, nos tricheries, la haine, les mauvaises paroles, nos désobéissances, nos disputes, nos blasphèmes, notre jalousie. Il a pris tout ça à la croix.
Extraordinaire, afin que nous puissions entrer dans cette relation nouvelle avec le Christ, être renouvelé dans cette vie éternelle. C'est pas fantastique, ça? Ce qui existait au jardin d'Éden existe en Christ. Nous pouvons vivre éternellement, recevoir cette vie éternelle. C'est pas extraordinaire, ça? Est-ce que c'est pas ça, le cadeau? Il fallait du temps, hein, pour l'amener. Vous vous rendez compte, dans l'histoire, combien ça a pris de temps pour amener ce cadeau extraordinaire qui est le propre Fils de Dieu. Extraordinaire. Alors, le cadeau de Dieu, c'est bien. Le cadeau de Dieu, ici, c'est plus qu'un cadeau, hein, c'est extraordinaire. Nous allons lire quelques versets pour montrer à quel point il est un cadeau. Bon, c'est quelques versets. On ne va pas prendre toute la Bible. Il y a beaucoup plus de noms que cela. Mais quelques noms caractérisent ce cadeau. Alors, Luc 2, verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà, on le caractérise très clairement. Il vous est né un sauveur, celui qui vient nous sauver de nos péchés, on l'a vu, qui est le Christ, donc le Messie, celui qui est oint, littéralement. Hein, nous savons que David, par exemple, avait reçu une onction, et Jésus a reçu une onction pour son ministère, pour réussir à ne pas pécher, pour glorifier Dieu, aller jusque dans les lieux très hauts. Il est mort, il est ressuscité, il est remonté auprès du Père, et il nous attend, bien sûr. Il est le Christ, il est le roi, il est le Seigneur, Adonai, le maître de l'univers, le Seigneur de nos vies, le maître. Alors, il veut devenir aussi notre maître. Et dans Apocalypse 22, 16, il y a encore d'autres noms. Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David. La postérité de David. L'étoile brillante du matin. Ça nous fait penser à Abraham qui regarde les étoiles, qui les contemple dans le ciel. Il y a une étoile qui surpasse toutes les autres. L'étoile brillante du matin qui nous apporte l'espérance d'un jour nouveau. Jésus est la descendance d'Abraham qui bénit toutes les nations. Il est le Messie qui vient par la lignée de David, on l'a dit. Apocalypse 5, verset 5, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Il est le lion de la tribu de Juda. Donc, Juda est caractérisé par le lion. Le lion, c'est un animal qui représente la tribu de Juda. Et le lion, c'est vraiment, la caractéristique de l'animal qui est le plus fort. Et il est le lion, hein, par excellence, qui régnera, qui viendra régner un jour sur la terre. Cantique, chapitre 2, verset 1er, « Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. » Jésus répand sa bonne odeur, hein, sur nos vies, et il est le plus beau des fils de l'homme. Une fleur, c'est quelque chose de magnifique, de beau. Hein. Le cantique des cantiques nous parle aussi du fiancé. Nous sommes fiancés, nous sommes la fiancée en tant qu'Église, au fiancé parfait qui est Jésus. C'est extraordinaire. Hein, un jour, il y aura ce mariage dans les noces de l'agneau. C'est fantastique de voir cela. Hein. Apocalypse 21, verset 6, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Voilà aussi un des noms du Seigneur, c'est l'alpha et l'oméga, il est le début et la fin de toutes choses. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Il est celui qui désaltère jusque dans la vie éternelle. Jérémie 23, verset 5, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Jésus, il est vraiment ce germe qui fait germer la justice. Le germe, c'est ce qui donne la vie. C'est ce qui donne la vie, le germe. S'il n'y a pas de germe, c'est impossible. Si vous plantez une pomme de terre, il faut que le germe, hein, donne la vie à une nouvelle plante. Oui. Le germe, c'est une puissance de vie. Dans le pépin de pomme, c'est la même chose. Un pépin qui va devenir un pommier, là. C'est extraordinaire. Rien qu'un petit pépin de rien du tout. Il régnera en roi, il prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Il fait germer la justice. Il est le Goël aussi. Jésus, il est le Goël. Et ça, nous le voyons dans le livre de Ruth. Et c'est celui qui a droit de rachat. Bon, ça rachète Ruth, hein, la propriété de Naomi, hein, et sa descendance, parce que les fils sont décédés, et Boaz va permettre que l'héritage reste. Et il rachète. Il a le droit de rachat. Il est le Goël qui nous rachète de notre vaine manière de vivre. Il nous rachète du péché. Il a payé le prix pour que nous soyons rachetés par rapport à l'esclavage. Nous étions vendus au péché, nous étions esclaves du péché, et il a payé la rançon qui nous libère de l'esclavage. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Alors, il est le Shiloh. Voilà encore un autre terme très étonnant dans la Bible, et ça on voit dans Genèse chapitre 48. Le sceptre ne sera pas retiré à Juda, c'est une promesse qui est faite à Juda. ni le bâton de commandement qui est entre ses jambes, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh, c'est celui à qui appartient le bâton de commandement, celui qui doit être envoyé, le pacifique, le dominateur, son chef. C'est un cadeau pour lui. Voilà, le Shiloh. Apocalypse 17, verset 14. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois de la terre. Pourquoi roi des rois de la terre? Parce que son règne est éternel. Il n'y a aucun roi qui a un règne éternel. Les plus grands rois, ils ont peut-être un roi de 50 ans ou un peu plus, mais 40 ans, 50 ans, quelquefois quelques années en plus. Et là, c'est vraiment, c'est pas seulement 1000 ans, c'est l'éternité. C'est l'éternité. Il est merveilleux. Voilà encore un nom extraordinaire de Jésus. Il est merveilleux. Merveilleux. Alors, merveilleux, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous? Je pense qu'il fait des merveilles. Hein. Quand il y a des guérisons, des miracles, c'est pas merveilleux ça. C'est pas magique. C'est merveilleux, simplement, parce qu'il est merveilleux. Hein, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut accomplir des choses extraordinaires. Il est le Dieu qui guérit, qui délivre, qui sauve. Il est merveilleux. Alors, je vous invite à entrer dans la célébration de ce cadeau ce matin. Est-ce qu'on pourrait remercier le Seigneur pour le cadeau qu'il nous a fait en Jésus-Christ? Dieu nous a fait un cadeau extrême. Et je voudrais simplement rappeler Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, ça c'est le cadeau, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si nous mettons notre foi et notre confiance en lui, nous avons ce cadeau. Et ce cadeau nous propulse dans la vie éternelle. C'est extraordinaire ça. Formidable. Alors, remercions le Seigneur pour ce cadeau extraordinaire. Merci Seigneur, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es... Oui, c'est vrai, tous les noms qui ont été dits, tu es le bon berger. On pourrait retrouver plein d'autres noms, Seigneur. Tu es le conseiller, le Père puissant, Père éternel. Merci Seigneur, parce que tu es l'ami fidèle et tendre. Merci. Merci parce que tu es notre Seigneur, celui qui nous accompagne. Tu es Emmanuel, évidemment. Dieu avec nous, au milieu de nous. Merci pour tous ces noms qui caractérisent ta personne. Tu es notre Sauveur. Tu viens encore nous sauver jour après jour de nos bêtises et tu nous aides à remonter la pente chaque fois que nous sombrons par une de nos bêtises. Nous voulons vraiment regarder à toi. Tu es celui qui avait sorti Pierre de sa peur, les peurs des éléments, il sombrait dans l'eau et tu l'as fait marcher sur l'eau. Et nous voulons marcher sur l'eau. Comme Alexandre de l'Église, son témoignage, c'est de marcher sur l'eau. Il est toujours malade à l'intérieur de son sang, on pourrait dire, mais il n'est pas malade parce que il marche sur l'eau et tout va bien. Tout va bien pour lui. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es celui qui, avec Élisée, avait fait flotter le fer. Alors, tu es capable de faire des choses extraordinaires avec nos vies, Seigneur. Merci. Merci pour tes noms qui caractérisent qui tu es, quel cadeau tu es pour notre âme. Merci, Seigneur. Merci pour la vie éternelle. Marie-Géraldo, est-ce qu'on pourrait prendre un chant? Nous allons tous nous lever.
Nous allons chanter un des chants du matin.